No.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la tempête orthographique qui a soufflé sur la France. Tout commence en 1990 quand l'Académie française valide des modifications marginales sur quelques mots bizarres, des signes typographiques pas toujours nécessaires, des accentuations dont on peut aussi se passer. 26 ans plus tard, après quelques épisodes mineurs, ces recommandations ressortent, vont bientôt être, ça c'est une belle liaison, un peu trop dangereuse, vont bientôt être imprimées dans les livres scolaires. Et là, c'est le drame, une de ces polémiques dont notre pays raffole, car nous sommes peut-être encore persuadé du génie de la langue française, nous qui vivons dans une nation qui s'est toujours voulue ou crue ou dite littéraire. Un mot encore, des polémiques de ce genre, il y en eut plein. Écoutez par exemple cette citation de Victor Hugo dans Les Contemplations. Le poème s'intitule « Réponse à un acte d'accusation » 1834. L'accusé, c'est Hugo, il aurait défiguré la langue française et sublime, il relève le gant en ces termes. « Je suis ce monstre énorme, je suis le démagogue horrible et débordé et le dévastateur du vieil ABCD, causons. »
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Alors causons donc, comme nous y invite Hugo, 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot dièse ou le hashtag Telson. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, soyez la bienvenue.
Merci. Je vous appelle simplement parce qu'on fait beaucoup de bruit autour d'une réforme qui a déjà été décidée depuis 26 ans, donc très longtemps. Rappelons qu'au 18e siècle, les S s'écrivaient des F, l'accent circonflexe a remplacé le S, que notre langue est en perpétuelle évolution et que c'est comme tous les êtres vivants, elle grandit, elle évolue et que la belle orthographe n'est pas la garante du beau langage. Donc je trouve qu'on fait un procès à une ministre qui ne fait qu'appliquer quelque chose qui est déjà mis en place par beaucoup d'instituteurs.
Mmh. Merci voilà. Anne pour cette question. Pour vous répondre et causer, débattre ce soir, Bernard Pivot, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, président de l'Académie Goncourt, Olivier Houdard, bonsoir. Correcteur au monde.fr et animateur du blog absolument formidable, Langue Sauce Piquante. Bon, beaucoup de bruit pour pas grand chose, nous dit cette auditrice. Qu'en pensez-vous, Olivier Houdard?
Je pense qu'elle a raison. C'est un peu une tempête dans un verre d'eau. En plus, la politique aérienne se mêle à la chose parce que c'est une occasion un peu facile d'attaquer la ministre. À mon avis, d'ailleurs, c'est pas vraiment ça qu'on lui reprochait. C'était un peu subliminal ce qu'on lui reprochait. C'était plutôt d'être une femme et d'être d'origine marocaine. Mais enfin bon, passons là-dessus. En plus, on disait qu'elle était responsable de cette réforme. En fait, elle était en rien responsable de ça, vu que c'est des éditeurs scolaires qui ont décidé que à partir de cette année, ils appliqueraient tout ou partie de cette fameuse réforme, enfin, entre guillemets, réforme de 1990, parce qu'en fait, même le terme de réforme est faux. Une réforme aurait un sens contraignant. Là, c'est seulement des recommandations. Et ces recommandations, certaines sont pas mal, d'autres sont plus bizarres, ces recommandations, elles ne font qu'ajouter à la confusion, parce que le résultat de tout ça, c'est que environ 2000 mots vont pouvoir s'écrire de deux façons différentes.
Voilà, donc là où on devait simplifier,
là où donc c'est
on complique.
C'est absolument pas une simplification. D'un autre côté, bon, qu'il y ait une diversité, moi je trouve pas ça mal, parce que bon, il fut un temps, même au Moyen-Âge, où tout le monde écrivait un peu comme il voulait, et les gens se comprenaient quand même. Mais le fait qu'il y ait une diversité, ça a rien de problématique. D'autant plus qu'il y a déjà des tas de mots qui peuvent s'écrire de deux façons différentes.
Bernard Pivot, sur l'ampleur de ce qu'il ne faut pas appeler une réforme et du toilettage.
Alors, il se trouve que je faisais partie de la fameuse commission de 1990. Et cette commission, elle a commencé par faire du bon travail. Parce que c'était une commission, je vous rappelle, de rectification. C'est le terme exact. Donc, cette commission avait pour but de rectifier les anomalies, les bizarreries, les exceptions accumulées au fil des siècles dans la langue française. Et, par exemple, le pluriel des mots composés, l'accent aigu, accent grave, on double les consonnes ici ou là, etc. Et c'est très bien fait, ça a été très bien fait. Et puis, comme toujours dans les commissions, il y a des ultras. Et d'un seul coup, on s'est attaqué aux traits d'union. Alors, d'un seul coup, les traits d'union ont tremblé, on en a supprimé quelques-uns, d'autres ont résisté. Et puis après, à la fin même, d'un seul coup, il y a un grammairien qui a dit l'accent circonflexe, il ne sert pas à grand-chose, supprimons-le.
Donnez son nom.
Alors, non, je ne me souviens pas. Alors, le A et le E, qui sont deux voyelles très fortes, résistantes, on n'a pas pu les toucher, mais le I et le U, qui sont deux voyelles modestes, un peu fragiles, eh bien, elles ont dû céder sous la poussée des barbares. Et c'est comme ça que l'accent circonflexe... Alors, on a supprimé l'accent circonflexe sur l'I-U, mais avec des exceptions. Donc, comme vous venez de le dire, on a simplifié, mais en même temps, en compliquant. Et alors, la chose extraordinaire, c'est que dans la commission, il y avait Maurice Druon. Maurice Druon, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Et qui, à ma grande surprise, a accepté la suppression de l'accent circonflexe sur le I et le U. Moi, je me suis même engueulé avec lui dans la commission. Et quand Maurice Druon a accepté toutes ces réformes, entre guillemets, et quand il s'est présenté à l'Académie française, les académiciens ont été consternés qu'il ait accepté tout ça. Mais comme il était perpétuel de l'Académie française, on ne pouvait pas le déjuger, on ne pouvait pas le désavouer. Donc l'Académie française, du bout des lèvres, a accepté cette réforme, entre guillemets, en espérant qu'elle serait enterrée. Et elle a été enterrée très vite. Pourquoi ?
Ah bah oui.
Pourquoi ? Eh bien parce que les écrivains, de droite et de gauche, je me souviens très bien de Michel Tournier, Claude Mauriac, sont montés au créneau et ont dit « c'est pas possible de s'attaquer » à l'accent circonflexe, c'était ça l'erreur commise par la commission, parce que on s'attaque à l'esthétique de la langue française. Et c'est vrai que supprimer d'un seul coup l'esthétique, si vous supprimez l'accent circonflexe des traits d'union, l'esthétique change. Et c'est comme ça que les travaux de cette commission, où il y avait du bon, je vous le rappelle, ont été enterrés pendant 26 ans.
Alors, j'ai une très bonne question de nature quasi philosophique de Laurent du Pas-de-Calais. Est-ce qu'on doit considérer l'orthographe comme une science ou comme un art en tant que Français, Olivier Houdard?
Je dirais ni l'un ni l'autre.
Ou l'un et l'autre.
Comment?
Ou l'un et l'autre.
Oui, enfin, ni l'un ni l'autre, parce que c'est vraiment donner beaucoup d'importance à une norme, un code qu'il faut apprendre, mais... Enfin, je dirais presque, moi, que l'orthographe, c'est une sorte de savoir un peu stérile, quoi. Parce que même si on sait tout, et d'expérience, d'ailleurs, étant correcteur, je peux vous dire que personne, mais absolument personne, n'écrit sans faire de fautes. Hein.
Même les grandes plumes du Monde ou du Monde.fr font des fautes.
Ah bah, je trahirai pas de...
Ah oui, c'est vrai qu'il y a une éthique chez les correcteurs, il y a une éthique digne de l'éthique médicale.
Je vais pas trahir le...
Donc tout le monde fait des fautes, ça c'est quand même...
Tout le monde fait des fautes, ce qui montre que je suis pas un expert, mais je pense que l'orthographe française c'est une des plus difficiles au monde, sans la majuscule.
Je vais interviewer Maurice Grévy, ce célèbre grammairien, linguiste, la dernière question c'était, est-ce qu'il vous arrive vraiment d'hésiter, est-ce que parfois vous vous trompez? Il m'a dit, oui, parfois j'hésite, et alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ben je consulte mon Grévisse.
Jamais mieux servi que par soi-même.
Mais moi je voudrais dire de l'orthographe, qu'il y a de la poésie dans l'orthographe. Alors ça étonne toujours les gens. Mais oui, il y a de la poésie. Prenez le mot libellule. La libellule, cet insecte magnifique, eh bien, elle a quatre ailes. Et prenez le mot libellule, il contient quatre ailes aussi. Il y a une symbiose entre la biologie et l'orthographe. C'est pas magique, ça?
Oui, c'est formidable. Ouais.
Et prenez le mot coït. Il y a deux petits points qui s'envoient en l'air sur le i de coït. C'est pas génial? Et le tire-bouchon, auquel ils veulent retirer le trait d'union.
Ouais.
Eh bien, ils ont tort. Pourquoi? Parce que regardez le tire-bouchon, le trait d'union, on voit très bien que c'est les lise du tire-bouchon qui s'enfonce dans le bouchon. Et c'est ça la poésie d'orthographe.
Et le mot chien continue à ne pas mordre, mais tous les contre-exemples que vous venez de donner démontrent que ça peut être parfois le contraire. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci de prendre mon appel. Oui, je suis prof d'anglais en retraite Et je voulais signaler que j'ai souvent utilisé la correspondance qu'on pouvait faire entre les mots français équipés d'un circonflexe et leur cousin anglais qui avait conservé le S. Bon, il y a tout un tas d'exemples comme il, aille, le coup, cost, etc. Et forêt, forest, on en est bien conscient. Et ça plaisait aux élèves, en même temps ça leur faisait travailler un peu l'orthographe française. Ils s'appliquaient leur curiosité. Et j'ai beaucoup utilisé ça et je me suis régalé avec le circonflexe pendant des années. Mmh. De la même manière, je voulais dire aussi que le circonflexe est un témoin historique de l'entrée des Normands en Angleterre. Et puis, c'est aussi, si on laisse tomber ce circonflexe, c'est d'une certaine manière aussi une prime à la paresse. Et il n'y en a pas besoin, vraiment. Voilà ce que
merci
je voulais dire.
Bernard, merci Bernard pour ce témoignage. C'est vrai que l'accent circonflexe porte l'histoire des mots, hein, et que quand on se met à faire ce qu'on appelle un peu techniquement de la phonétique historique, ça devient absolument passionnant de voir comment on est passé du mot souche au mot d'arrivée. Bernard Pivot, qui veut répondre à notre auditeur, Olivier Houdard.
Non, mais sur les accents circonflexes, moi je les aime bien les accents circonflexes parce que c'est vrai qu'ils sont amusants, ce sont des petits chapeaux, des petits oiseaux, on apprend ça quand on est... Alors le problème c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la suppression de l'accent circonflexe sur le I et le U pose un problème parce que il y a des exceptions. Alors créer une nouvelle règle avec des exceptions, c'est stupide. Donc par exemple le dû, ce que je vous dois, eh ben, il faut garder l'accent circonflexe pour pas le confondre avec l'article. Le dû. Le jeûne, avec quand je ne mange pas, le jeûne, il faut garder l'accent circonflexe sur le jeûne pour ne pas le confondre avec l'adjectif jeûne, et ainsi de suite. Donc, et puis, il y a même dans la conjugaison, qu'il fut, ben, il faut laisser l'accent circonflexe sur le U. Donc, pourquoi abolir une règle et en créer une autre en créant des séries d'exceptions
c'est idiot, la règle censée déjà être réformé pour les éviter. Olivier Houdard, vous avez dit en commençant qu'il y avait des choses qui vous semblaient sans grand intérêt dans ces évolutions et d'autres qui vous semblaient au contraire peut-être plus intéressantes, plus intelligentes. Vous pensiez à quoi ?
Je pensais au trait d'union et aux mots composés avec un trait d'union au milieu qui pose d'énormes problèmes d'accord au pluriel et un des mots qui devait évoluer selon cette entre guillemets réforme c'était week-end qu'on écrivait enfin qui était un mot composé et qui maintenant enfin d'après les recommandations est collé, mais d'ailleurs il me semble que Larousse déjà le présente collé. Comme un mot collé et ça permet de résoudre enfin de toute façon la marche générale comment dire, les gens spontanément, leur tendance, c'est d'accoler les mots. Il y a énormément de mots qui, par exemple, je sais pas moi, porte-manteau ou
portefeuille
qui sont ou dorénavant ou enfin il y en a des milliers comme ça qui sont la soudure de deux voire trois oriflamme, bon, deux trois quatre mots et c'est un peu une tendance de la langue et en plus, ça permet de résoudre l'accord du pluriel. Parce que l'accord du pluriel, bon, quand vous avez par exemple le fameux problème de garde-côte, est-ce qu'il faut mettre un S à garde ou pas
La règle, c'est rappelez-moi parce que j'ai un peu honte.
Parce qu'il y a énormément de mots composés dont le premier terme est un verbe.
Et donc il est invariable.
Et donc il est invariable, mais
donc des garde-côtes invariables.
Oui, mais alors
des garde-manger.
Mais non, on a fait une exception parce enfin on a fait une différence entre le corps des garde-côtes et les garde-côtes en tant qu'homme. Bon, et en ce moment on en parle beaucoup pour Lesbos, enfin la mère Égée et tout ça. Et ça supprime un certain nombre d'accords du pluriel sur lesquels les dictionnaires ne sont pas d'accord. Le dictionnaire, quand même, je pense en particulier au Larousse et au Robert, c'est un peu les juges de paix pour un peu tout le monde. Et là-dessus, ils ne sont pas d'accord. si vous pouvez faire des comparaisons.
Si le Robert et le petit Larousse ne sont pas d'accord, comment voulez-vous que les Français soient d'accord?
Ben oui, ben évidemment, mais c'est comme Bordeaux et Bourgogne.
Ben oui,
c'est des combats
PSG et l'OM.
Exactement. Mais ce qui veut bien dire que la langue vit déjà, que l'usage y a toute sa place et que il n'y a pas besoin d'attendre une commission de l'Académie française pour prendre acte de ces évolutions, non, Olivier Audard?
Mais attention, là vous parlez de la langue, mais il ne faut pas confondre la langue et l'orthographe, l'écrit. Tous les problèmes dont on parle, pas tous, mais enfin disons les trois quarts des problèmes dont on parle n'apparaissent pas à l'oral. Hein, des tas de fautes, on ne sait pas quelles sont faites. Enfin bon, et justement, l'accent circonflexe dont on apparemment tout le monde s'est focalisé là-dessus, l'accent circonflexe.
C'est pour l'écrit,
c'est pour l'écrit. Il y en a un certain nombre qu'on pourrait supprimer. Oui. D'ailleurs, même il me semble que la réforme de 90, c'est pas très clair sur des. Par exemple, je l'ai relu là, et il disait bon, pour château, ça porte rien, qui a un accent circonflexe, mais apparemment, ça n'apparaissait pas dans la liste des mots qui changeaient. Mmh. Donc c'est un peu n'importe quoi. Enfin bon.
Bernard Pivot, puis Guillaume au standard.
Alors, moi, non, simplement, il faut quand même parler de la scolarité, parce que ça s'adresse aux écoliers.
Voilà, on a beaucoup de questions là-dessus qui arrivent.
Écoliers, ouais. Cette histoire. Alors, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, mais peut-être, là, il y a des professeurs qui vont peut-être nous répondre, c'est que on va dire aux écoliers, ben voilà, vous avez 2400 mots où l'orthographe, elle est à la carte. En revanche, tous les autres mots, c'est au menu. Vous n'avez pas le droit d'y déroger. Et je me dis, ils vont se demander, d'ailleurs, pourquoi certains mots ont cette qualité-là de pouvoir changer d'orthographe et pas les autres. Et ce que je crains, c'est qu'ils se disent, au fond, l'orthographe est quelque chose de changeant, d'aléatoire, de futile, et donc finalement de pas très important. Mmh. C'est ça que je crains. Et d'autre part, j'ajoute qu'il me semble que les écoliers vont avoir un petit problème quand ils ont une orthographe dans leur livre scolaire, et ils vont lire des mots avec une autre orthographe dans les livres, dans les BD, dans les journaux, dans les romans. Et là, il va y avoir une sorte... Ils vont être un peu troublés, quand même.
Bonsoir, Philippe.
Philippe, bonsoir, monsieur Deborah,
nous vous écoutons.
Voilà la remarque que je souhaitais formuler. Si le but recherché par la réforme qui est proposée est de ne plus discriminer sur le critère de l'orthographe les personnes qui sont incapables de respecter les règles de l'orthographe, je trouve qu'il est inutile et vain de leur proposer de nouvelles règles qu'ils seront tout aussi incapables de respecter que les précédentes. Et que la seule façon de ne plus discriminer personne sur le critère de l'orthographe, c'est de supprimer l'orthographe et d'accepter une écriture purement phonétique. Et n'oublions pas que la première leçon qu'on apprend en linguistique, c'est qu'une langue se parle avant de s'écrire.
Mmh. Alors vous imaginez, si on vous suit sur cette proposition, alors là c'est pas de la réforme entre guillemets, c'est de la révolution, Philippe, vous imaginez dans quel état serait la France, Bernard Pivot?
Proust en phonétique, c'est assez croquignol.
Ce serait difficile, ce serait quand même difficile à lire. Sur la question de la discrimination tout de même, l'orthographe reste l'un des vecteurs de la discrimination sociale entre savoir bien écrire et ne pas savoir, Olivier Audard.
Non, moi je dirais que c'est l'inverse. Les problèmes orthographiques ils reflètent ce qu'est d'une certaine façon ils reflètent ce qu'est la société. Moi je voudrais quand même élargir le débat par rapport à l'orthographe elle-même parce que c'est vraiment un tout petit point par rapport à ce qui nous préoccupe.
Allez-y.
Ce qu'il faudrait, c'est à l'école, enfin pour la jeunesse et tout, c'est de développer le goût de lire, de donner beaucoup plus d'importance à la culture, apprendre à raisonner, apprendre à écrire, apprendre à formuler sa pensée. L'orthographe là-dedans, c'est quand même un peu secondaire. Et je pense que si, et à mon avis, c'est pas du tout ce que fait la société actuelle, mais si on donnait l'accent à ça plutôt qu'à beaucoup d'autres choses, des tas de problèmes se résolveraient. résoudraient d'eux-mêmes. Moi, personnellement, enfin, je me donne pas en exemple, moi, mais j'ai, pour être correcteur, j'ai suivi des études normales d'histoire, mais je pense que ce que j'ai appris dans le domaine typographique, orthographique, du vocabulaire, ou de la syntaxe, ou du raisonnement, je l'ai appris en lisant. Et je pense d'ailleurs que la meilleure façon d'avoir une bonne orthographe, c'est de lire, et de lire notamment des classiques. Et là, en fait, vous assimilez de vous-même les choses. En plus, vous lisez des livres intéressants, mais en plus, tous ces domaines-là, vous les assimilez.
L'orthographe sédimente et se crée d'elle-même.
À mon avis, l'orthographe ne s'apprend pas vraiment. On l'assimile en lisant.
Ouais. Entre deux écrivains ou deux journalistes, l'un a un vrai talent de conteur mais fait beaucoup de fautes d'orthographe, et l'autre a une orthographe parfaite mais vraiment un style déficient, évidemment c'est le premier qui est intéressant, parce que le talent il l'a, et l'orthographe on pourra toujours lui mettre sur sa copie. Donc l'orthographe, c'est vrai, n'est pas le nec plus ultra des choses que l'on apprend. Mais ce qui est vrai, c'est que le certificat d'études dans mon enfance, quand vous faisiez 5 fautes à la dictée, vous étiez éliminé, même si vous aviez des bonnes notes en arithmétique ou en histoire. C'était une erreur. Et ça voulait dire que l'orthographe était la valeur suprême. C'était stupide. C'était con. J'ose même le dire. Et au fil du temps, on est passé à l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'orthographe, aujourd'hui, a un statut de... c'est une chose un peu superficielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, changeante, et finalement, qui n'a pas beaucoup d'importance. Évidemment, la vérité est entre les deux. Entre l'excès de valeur qu'on accordait à l'orthographe il y a 50 ans, 60 ans, et aujourd'hui le dédain dans lequel elle est considérée par des élèves et parfois aussi par des professeurs, et évidemment il y a une juste mesure, et c'est cette juste mesure qu'il faut retrouver.
Guillaume, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Lille et nous vous écoutons.
Oui, je vous appelle de Lille, j'ai 24 ans, et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Bernard Pivot, c'est-à-dire que l'orthographe n'est pas à la fois une règle à laquelle on ne peut pas transiger, et en même temps ne peut pas être laissé à la bonne volonté de celui qui écrit. Mais est-ce que, dans ce cas-là, la question était de savoir si le fait de le réformer et de dire qu'à partir de maintenant, on peut ou on doit écrire comme ça, est-ce que c'est bien intelligent, et puis est-ce que c'est bien légitime? Je veux dire, l'orthographe évolue de lui-même, c'est un moyen de communication, donc il est important qu'on soit tous d'accord sur une base et que les gens s'accordent à écrire de la même façon. Mais en même temps, est-ce que dire que maintenant tel mot va s'écrire de telle manière, est-ce que c'est légitime? Et je voulais, dans un deuxième temps, c'est un peu long, mais juste revenir sur ce que vous avez précisé au départ, qui est à dire que en fait la création de cette polémique, c'est les éditeurs de manuels scolaires qui ont décidé d'appliquer la réforme à partir de la rentrée prochaine. Ça décale un peu la question, mais est-ce que ça serait pas aussi un simple moyen de revendre à nouveau des manuels scolaires?
Eh oui. Ben alors, merci Guillaume pour cette question. Bernard Pivot, qu'en pensez-vous?
Oui, c'est bien. Les éditeurs des manuels scolaires, ils ne sont pas contre cette réforme. Il va falloir mettre tous les
au pilon,
au rebut, et on va en faire donc tous les livres. Donc,
les éditeurs de dictionnaires aussi.
Olivier Houdard.
Les dictionnaires aussi. Ouais. Donc ça fait du grain à moudre là pour c'est pas mal. Alors parce que c'est quand même l'éducation nationale qui paye quand même tous ces livres. Donc l'éducation nationale a trouvé de l'argent là, un peu plus là, c'est bien.
Bon. Là, on sait bien, en tout cas pour le monde et l'industrie du livre, Olivier Houdard, un mot.
Oui, pas par rapport à l'industrie du livre, parce que bon, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais c'est à propos de la réforme, cette fois-ci, sans les guillemets, je pense qu'il faudrait réformer, parce que cette histoire, c'est le dernier avatar d'une histoire qui dure depuis plus d'un siècle, et il y a dans les cartons des tas de projets de réforme de l'orthographe et même de la syntaxe française, notamment celle de 1901, à laquelle le ministre de l'instruction, Georges Legge, avait attaché son nom, qui allait beaucoup plus loin que celle de 1990. Et c'était des recommandations, et là, c'était même pas pour l'ensemble de la population, mais c'était uniquement pour les correcteurs des épreuves des concours administratifs et tout ça. Bon. Et ça a provoqué aussi une levée de boucliers. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'en France, dès qu'on touche à l'orthographe, à la langue, si on veut, aussitôt ça provoque des levées de boucliers.
Mais on touche à quoi, alors ?
Ça, je sais pas, mais moi, je comparais.
On touche à quoi à travers la langue ?
Ah non, attends.
Je comparais presque ça avec les armes aux États-Unis, d'une certaine façon. C'est-à-dire.
C'est le même rapport.
C'est-à-dire, on peut pas.
Ouais, c'est
quelque
la
chose.
Langue.
Oui, c'est quelque
les
chose.
Mots plus moins que les revolvers. Hein.
Oui, enfin. Oui, mais bien sûr, mais c'est juste une comparaison. On a l'impression qu'on touche à une corde sensible. Et il est évident que le problème, c'est qu'il est évident qu'il faudrait changer des tas de choses dans l'orthographe, il faudrait la simplifier, parce que la simplification des langues, c'est une marge générale des langues qu'on constate. Toutes les langues se simplifient et s'élaguent. Et
allez-y.
Dernière chose que je vais dire, c'est que le problème, c'est que personne en France à l'heure actuelle n'a l'autorité pour imposer quoi que ce soit. Mais moins que jamais. Et le problème, en fait, il n'est pas orthographique, ni linguistique, ni autre chose. Il est politique. Voilà.
Bernard Pivot, on touche à quoi en France quand on touche à la langue ? Pourquoi c'est comme un nerf sur lequel on appuie et hop, tout le monde...
Tout simplement parce que les Français adorent leur langue, ils adorent les mots. Et regardez, ils ont toujours fait des écrivains des stars. Dans aucun autre pays, les écrivains ont joui d'une gloire, d'un statut. Rappelez-vous le couronnement de Voltaire. Vous parliez tout à l'heure, vous citiez Victor Hugo, les funérailles nationales, Malraux. Bref, c'est extraordinaire le statut des écrivains. Donc, si on aime autant les écrivains, c'est qu'on aime aussi beaucoup la littérature et qu'on aime aussi beaucoup les mots, parce que la littérature, elle est faite de mots. Et les gens, en tout cas moi, quand j'ai appris ces mots, quand je lisais le Petit Larousse, j'avais 7 ou 8 ans, j'avais l'impression que je me faisais des amis. C'était des amis qui venaient à moi, c'était des mots qui entraient dans ma petite tête, qui entraient dans mon cœur et dont j'allais me servir. Et je trouve que nous avons avec les mots des relations affectueuses ou parfois haineuses, mais de vraies relations, parce que les mots, ce sont nos confidences, sont nos amis, ce sont nos esclaves, sont nos maîtres.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de très différent quand on regarde que le fait que l'ensemble de ce dont nous parlons ce soir est né en 1990, que la polémique éclate 26 ans plus tard, est-ce qu'il n'y a pas l'idée que, pour le formuler simplement, tout fout le camp, tout décline? Et en plus, maintenant, on va toucher à la langue. C'est-à-dire la dernière chose qui restait.
Il y a un peu de ça.
Le dernier repère. Ouais, et je me dis du coup qu'une réflexion comme vous avez pu en avoir en 1990 serait littéralement impossible aujourd'hui de mettre des gens autour d'une table et d'échanger autour de quelques mots de la langue française qu'il faudrait simplifier. Non, Olivier Houdard, vous pensez pas ?
Non, mais je voudrais insister sur une chose, c'est que l'orthographe aussi, ça permet, on en parlait au début, ça permet de discriminer un peu. C'est-à-dire que les gens qui ont un certain savoir, peut-être qu'inconsciemment, et ils veulent le protéger parce que ça fait d'eux une espèce d'élite, en quelque sorte. Et ils ricanent en voyant des gens qui ont une mauvaise orthographe ou qui font des fautes de français. Bon, il y a un peu l'idée de la langue à deux vitesses. Et de créer, et à mon avis, tous les lettrés du passé ont voulu garder pour eux la science de la langue et de l'écriture. Et au début, c'était vraiment une élite les Égyptiens, même dans les monastères.
Et donc il reste quelque chose de ça.
Il reste quelque chose de ça, c'est-à-dire la langue savante, et puis la langue du troupeau, quoi. Et il y a une façon de vouloir maintenir un certain niveau élitiste pour pouvoir d'une certaine façon discriminer.
Bonsoir Huguette.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors, c'est une petite question qui concerne le langage parlé. Je me demande si la règle des 1 et des 100 qui prennent un S au pluriel est toujours d'actualité. Est-ce qu'elle n'a pas été supprimée puisque j'entends beaucoup, enfin la plupart des animateurs radio, télévision et autres ne pas respecter cette règle. Et donc je voulais savoir si elle était toujours d'actualité. La liaison n'est jamais faite.
Merci Huguette pour cette question. Ouais, Olivier Houdard, on en est où alors? Alors vous c'est l'écrit, hein, nous c'est l'oral.
Oui, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur l'oral. Mais là-dessus, justement, les recommandations.
Ils ont mis plus de traits d'union.
Oui, ils mettent plus de traits d'union et disent.
Le
fait d'écrire un S, ça implique pas qu'il y ait une liaison non plus. Mais les liaisons. Ça part vraiment dans toutes les directions. On dit qu'il y a des liaisons fautives. C'est difficile de le dire. Vous savez, bon, il y a une chose qui est dans tous les livres de grammaire et de linguistique, c'est que la bonne prononciation, c'est la prononciation, donc y compris les liaisons, c'est la prononciation de la bourgeoisie de l'Est parisien. Bon. Oui. De même que moi, quand j'étais au lycée, on me disait, quand j'apprenais l'anglais, on me disait, il faut copier l'accent de la reine d'Angleterre. Bon.
Le spectre s'est un peu élargi, heureusement.
Personne ne prononce ou ne fait des liaisons de la même façon.
C'est ce qu'on appelle des liaisons dangereuses en radio.
Chirac était connu pour ses liaisons totalement abracadabrantes.
Bernard Pivot. Il y a un mot qui n'a encore pas été prononcé, ça m'étonne. C'est le mot nénuphar.
Ah, mais oui.
Nénuphar, parce que, rappelez-vous, il y a, alors je sais plus combien d'années, il y a eu une bagarre incroyable en France, dans les radios, à la télévision, dans la presse écrite, à propos de l'orthographe du mot nénuphar. Bon, les gens avaient dit, écoutez, autrefois, il s'écrivait avec un F, il faut revenir au F. Bon, alors là, des polémiques incroyables. Et je me souviens d'un article je crois que c'est dans le New York Times, qui disait, c'était au moment de la première guerre du Golfe, et disait, nous sommes peut-être à la veille d'une troisième guerre mondiale, et de quoi les Français débattent-ils? Sur quoi s'empoignent-ils? Sur l'orthographe d'une petite plante aquatique que fréquentent les grenouilles. Voilà ce qu'il avait écrit. Eh bien, ça, c'est typiquement français.
Olivier Houdard.
Oui, mais alors là, ça rejoint un problème beaucoup plus vaste qui est le...
Et plus profond. Est-ce vrai que nénuphar a été écrit BH en référence à Nymphéa?
Non, ça je sais pas, mais ce que je sais...
Ça c'est une mythologie urbaine.
Ce que je sais, c'est que l'Académie, enfin notamment le dictionnaire de l'Académie, à plusieurs reprises, a voulu, et ça va dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, a voulu relatiniser le français.
Relatiniser,
oui, c'est-à-dire étymologiser les mots. Et par exemple, bon, nénuphar, on n'arrête pas de parler de ça, on parle d'éléphant, mais... En plus, ils l'ont pas fait systématiquement, ce qui fait que vous avez un mot comme fantôme, que normalement, si on respectait l'étymologie, parce que c'est un mot grec, on devrait commencer ce mot par un PH.
Allons-y.
Moi, je pense à fantasme.
Et fantasme aussi.
C'est
la même origine, bien sûr. Non, ceci pour dire que énormément de mots, notamment lors du dictionnaire de l'Académie de 1835, énormément de mots ont été étymologisés et on leur a ajouté des Y, des PH, des H partout. Et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'était une façon aussi de rendre la langue plus compliquée, enfin l'écriture plus compliquée pour le commun des mortels.
Bernard Pivot, puis on file au standard.
Demorant, vous venez de prononcer un mot qui me plaît beaucoup, c'est
fantasme.
Le mot fantasme.
Ouais.
Ben, effectivement,
j'adore.
Un fantasme serait plus fantasme si on l'écrivait avec un PH, bien entendu.
un pH doux, pas un pH acide.
Moi, je suis prêt à faire des propositions de rectification, justement, d'orthographe.
Mais uniquement dans des sens érotiques ou érogènes. Hein.
Non, mais fantasme, ça n'a rien de... ça n'a rien de... Vous voulez une réforme un peu érotique?
Oui.
Eh bien, écoutez, je vais en donner une. Tout à l'heure, je vous ai parlé des deux petits points qui s'envoient
sur le i du coït.
Eh bien, je vous propose de prendre ces deux petits points et de le mettre sur le i du mot jouir. Ce serait logique, ce serait naturel, ce serait humain, ce serait érotique, ce serait formidable.
Vendu. Guy, bonsoir.
Vous m'entendez bien?
Guy, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, vous nous appelez de Toulouse.
Oui, c'est impressionnant la discussion.
Ah, nous jouissons avec un itréma, hein. On vous écoute, Guy, on vous écoute.
La discussion est passionnante. Peut-être qu'on pourrait donner comme référence sur la lecture pour l'orthographe zéro faute de François de Closet. Ça peut servir à certains pour essayer de voir les pour, les contre, etc. C'était, je crois, un livre très passionnant. Arrêtez avec la légende urbaine de lire améliore l'orthographe. Moi, autour de moi, j'ai des gens qui lisent énormément et qui sont débiles en orthographe. Mais je vais venir à ma question. Le souci, c'est qu'en France, on parle de faute d'orthographe. Ce sont, alors qu'une faute, elle doit être expiée, donc qui dit faute dit punition, et alors que ce sont que des erreurs, ce ne sont que des erreurs que l'on peut essayer peut-être de corriger avec le temps en s'améliorant. Voilà.
Remarquez extrêmement juste, Guy. Une faute, c'est moral. Oui. Alors attendez, Bernard Pivot veut dire un mot. Pivot.
Mais vous avez raison. C'est-à-dire que justement, autrefois, on disait une erreur de mathématiques, vous avez une erreur dans votre calcul. Tandis que l'orthographe, puisqu'elle était vraiment la matière, matière essentielle, eh bien, on disait une faute d'orthographe. On voit la différence entre la faute et l'erreur. Et la faute, comme vous avez raison de me le dire, monsieur, il faut l'expier.
Paul, bonsoir, vous nous appelez de Marseille.
Oui, je vais essayer de parler sans accent marseillais, et surtout de ne pas faire de faute.
Allez-y sur les deux, lâchez-vous.
Voilà, je vous posais une question simple. Est-ce que les autres pays francophones, on est un petit peu nombrilistes, ont déjà fait, eux, leur réforme? Et deuxième question subsidiaire, les pays dont les langues sont le plus usitées, en l'occurrence l'espagnol et l'anglais, ont-ils également fait une réforme concernant leur langue?
Merci.
Merci pour votre réponse.
Et merci pour cette question, Paul. Olivier Houdard?
Oui, bah, je pourrais répondre pour l'espagnol. Il y a eu une énorme réforme de l'orthographe espagnole, mais au XVIIIe siècle, je crois, par l'équivalent de l'Académie, enfin, c'est l'Académie espagnole. Et c'est ainsi que Philippe est devenu Felipe, c'est-à-dire que les PH sont devenus des F, et les P redoublés sont devenus des P tout seuls, et le monde s'est pas arrêté de tourner pour autant. Mais c'était au XVIIIe siècle, et à une époque où il y avait très peu de gens qui écrivaient et qui lisaient, donc c'est passé. Mais le problème maintenant, en dehors du problème politique dont j'ai parlé tout à l'heure...
Qui est central.
Le problème, c'est que maintenant, il y a énormément de locuteurs, énormément de gens qui lisent et énormément de gens qui lisent et qui écrivent beaucoup plus qu'avant. Ce qui fait que les problèmes sont surmultipliés, si vous voulez.
Sur la question de la francophonie, est-ce que il y a des mouvements très profonds de réflexion sur la langue?
Au Québec, ils sont beaucoup plus libres. Alors eux, ils ont une autre pression, c'est-à-dire que ils résistent entre guillemets contre l'influence de
l'anglais.
Et ils détestent ils aiment pas beaucoup souvent
les anglicismes.
Pas forcément les anglicismes, mais le fait qu'on adopte un mot anglais. Bon, pour moi, ça pose pas de problème du moment que ça apporte un.
Non mais parking. C'est un niveau. Pas parking est interdit chez eux, hein, au Québec. On voit pas de parking.
Oui, d'accord, mais moi, je parlais de week-end tout à l'heure. Je vois mal par quoi on pourrait remplacer Québec. Week-end.
Québec, ça, c'est une question explosive, ça. Hein. Attention.
Une autre phrase que j'ai lue il y a pas longtemps dans un livre, c'est le Colt du cow-boy dans ce western. C'est une phrase française, mais essayez de remplacer les trois mots que j'ai employés en français.
Ce serait compliqué. Merci beaucoup, Olivier Houdard, correcteur au monde.fr. Animateur du blog Langue Sauce Piquante. Merci beaucoup, Bernard Pivot, journaliste, président de l'Académie Goncourt, et un immense merci aux très 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 nombreux auditeurs qui ont appelé France Inter ce soir. Le journal dans quelques instants.